Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le premier sommet européen du président Macron. Pour certains dirigeants, le chef de l'État français est une chance pour la construction européenne. Pour d'autres, notamment en Europe centrale, il peut être un adversaire. Nous serons à Bruxelles dans un instant avec Isabelle Labéry et Lax Pilota. Et puis avec notre invité Thierry Chopin de la Fondation Robert Schuman, nous analyserons l'impact d'Emmanuel Macron sur la scène européenne. Dans ce journal également, le procès à Istanbul de la romancière turque Aslı Erdoğan. Nous ferons le point avec Eric Biegala. Et nous reviendrons sur ce plan de suppression de postes chez Michelin. 1500 emplois doivent disparaître en France d'ici 2021. C'est donc sa première sortie à Bruxelles en qualité de président de la République. Emmanuel Macron participe aujourd'hui et demain au Conseil européen des 27. 27, car la première ministre britannique Theresa May est encore présente puisque les négociations sur le Brexit ne font que commencer. Ce sommet a déjà débouché sur un premier résultat, une avancée sur le chemin de l'Europe de la défense. Isabelle Labéry.
Ce que le Conseil a validé cet après-midi, c'est la création d'un fonds de défense européen, une caisse commune en quelque sorte, alimentée à la fois par la Commission et les différents États, avec à terme un budget de 5,5 milliards d'euros par an, de l'argent qui servira à financer la recherche militaire et qui permettra aussi d'acheter du matériel en commun. C'est un premier pas très timide vers l'Europe de la défense, mais un vrai progrès, assure le chef de l'État.
Il m'a été donné dans d'autres fonctions de voir une Europe qui tâtonne, qui recule, qui bégaye, ça n'est pas le cas sur la défense. Depuis des années et des années, il n'y avait pas eu d'avancée en matière d'Europe de la défense. Il y en a une aujourd'hui. Se substitue-t-elle aux efforts nationaux des principaux pays, je pense en particulier à la France, qui intervient, investit fortement en la matière ? Non. Mais est-ce que c'est un progrès ? Oui.
La France veut également mettre en place une coopération militaire plus étroite entre certains États seulement. Ce sera le cas avec l'Allemagne. Les précisions seront données au prochain Conseil des ministres commun le 13 juillet. Une fois de plus, ce soir, Emmanuel Macron rappelle que Paris et Berlin doivent agir ensemble aussi souvent que possible. Car lorsque la France et l'Allemagne sont en désaccord, dit le chef de l'État, il est rare que les sujets européens avancent.
Isabelle Labéry, merci. En arrivant à Bruxelles, Emmanuel Macron avait affiché ses objectifs pour le sommet, parler de l'avenir de notre Europe et porter le projet d'une Europe qui protège. Le président français, qui est un peu la vedette de ce Conseil européen, tout auréolé qu'il est de ses succès électoraux. Lax Milota.
C'est dans une salle pleine à craquer qu'Emmanuel Macron a fait le bilan de cette première journée. Curieux, de nombreux journalistes internationaux ont voulu voir le nouveau président français. Ce dernier s'est vanté de réussir à convaincre ses partenaires et à dévoiler sa méthode personnelle. « Je discute de manière bilatérale », a décrit Emmanuel Macron, évoquant une rencontre avec les premiers ministres néerlandais et bulgares au sujet des travailleurs détachés. Mais le président ne peut pas plaire à tout le monde. Dans un entretien à 8 quotidiens européens publié aujourd'hui, Emmanuel Macron a déploré l'attitude de certains États d'Europe de l'Est qui ont, je cite, « une approche cynique de l'Union qui servirait à dépenser les crédits sans respecter les valeurs ». Ces propos ont été évidemment mal pris par les intéressés, le Premier ministre hongrois notamment, pour qui le président français est très jeune. Il vient ici pour la première fois, ses débuts ne sont pas très prometteurs, a lancé Viktor Orban. Demain, Emmanuel Macron doit justement rencontrer les dirigeants du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie. L'occasion pour le président français de démontrer sa capacité à convaincre ses partenaires.
Lax Milota, correspondante à Bruxelles. Et effectivement, Emmanuel Macron n'a pas que des admirateurs parmi les dirigeants d'Europe centrale. Ainsi, la première ministre polonaise Beata Szydło, elle accuse ce soir le président français d'antipathie à l'égard des pays d'Europe centrale. La Pologne est ouverte à la coopération avec la France, mais cela va dépendre du président Macron s'il veut étaler dans les médias son antipathie à l'égard des pays d'Europe centrale. Ou bien s'il veut parler des faits. Voilà ce qu'a dit Beata Szydło lors d'un point presse ce soir. On va maintenant revenir sur l'image d'Emmanuel Macron sur la scène européenne avec notre invité, le politologue Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation Robert Schuman. Bonsoir.
Bonsoir.
Thierry Chopin, Emmanuel Macron, qui dispose désormais de la majorité absolue à l'Assemblée en France, est-il devenu le nouvel homme fort de l'Union européenne ?
Alors je ne sais pas s'il est devenu le nouvel homme fort de l'Union européenne. En tout cas, il est clair que l'élection d'Emmanuel Macron crée et produit un effet sur la scène européenne. Il est clair que d'abord son quinquennat débute sous le signe d'une volonté de réaffirmation très forte de la France sur la scène européenne. Et par ailleurs, sa victoire sur Marine Le Pen, dans le cadre d'ailleurs d'un contexte politique français qui était caractérisé par un clivage entre finalement Emmanuel Macron pro-européen, favorable à une société ouverte sur l'Europe et le monde d'un côté, et de l'autre Marine Le Pen portant un projet de repli national, voire nationaliste, évidemment produit des effets sur la scène européenne.
Et du coup, Emmanuel Macron est populaire auprès des autres dirigeants européens ?
Oui, je crois qu'on peut le dire. Non seulement je crois que son élection, dans un contexte d'ailleurs où l'Union européenne a traversé ces dernières années un certain nombre de crises très importantes, parfois jugées existentielles, où le projet européen lui-même paraissait menacé, il est clair que la victoire d'Emmanuel Macron sur un programme ouvertement pro-européen lui donne, je crois qu'on peut le dire, une légitimité et un capital politique en réalité sans précédent, je crois, en matière européenne depuis, disons, 1992, François Mitterrand et le traité de Maastricht.
Alors, Thierry Chopin, Emmanuel Macron veut parler de l'avenir de l'Europe, une Europe qui protège, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré tout à l'heure en arrivant à Bruxelles. Est-ce que c'est une feuille de route susceptible de mobiliser les Européens, selon vous ?
C'est un projet, une vision de la relance de l'Union européenne, de la refondation, pour utiliser d'ailleurs le mot usité par le président lui-même, qui pourrait peut-être créer une forme de consensus entre Européens. Pourquoi ? Parce que je crois que cette Europe qui protège, on pourra revenir d'ailleurs sur la dénomination même de ce mot de protection, qui lui en fait peut poser problème auprès de certains de nos partenaires, mais en tout cas dans l'idée, du point de vue du contenu relatif aux enjeux à traiter, c'est-à-dire à la fois les questions de sécurité, les questions de défense, les questions de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, la question de la gestion des flux migratoires, et aussi dans une certaine mesure la question de la protection en matière sociale ou en matière commerciale. Je crois en tout cas que sur la première série d'enjeux, sur les sujets régaliens que j'évoquais, je crois que les Européens sont confrontés en fait à des défis de sécurité communs et que c'est les partenaires de la France sont capables, je crois, de prendre conscience de cette interdépendance, de ce degré d'interdépendance politique fort entre eux qui les amène à prendre des initiatives en commun, en effet.
Sur la question migratoire, que souhaite finalement Emmanuel Macron ? C'est une plus grande ouverture des frontières ?
Alors non, en fait c'est là où d'ailleurs sa vision est politique de l'Union européenne est intéressante, c'est-à-dire que d'un côté Emmanuel Macron évidemment est favorable et soutient le principe d'une ouverture sur l'Europe, mais il l'a dit d'ailleurs explicitement que l'ouverture en fait devait être régulée. Je crois que c'est quelqu'un qui reconnaît en fait non seulement les vertus de l'ouverture et en même temps ses limites et que un ensemble ouvert, un ensemble où les frontières intérieures sont abaissées, un ensemble d'ailleurs où les barrières douanières aussi sont abaissées à l'intérieur, ne signifie pas nécessairement l'abandon de tout contrôle des frontières extérieures de cet ensemble, et donc effectivement que ce principe d'ouverture doit s'accompagner d'un principe de régulation.
Thierry Chopin, il y a tout de même des réticences de la part des autres pays européens. Par exemple, le projet d'Emmanuel Macron de contrôler les investissements chinois en Europe, ce projet a été renvoyé à plus tard.
Oui, alors effectivement, et je disais tout à l'heure que le mot même de protection, en fait, pouvait être très parlant pour un public français, et qu'en même temps, ce mot de protection, cet agenda de protection porté par le président de la République, est peut-être présenté sous une forme rhétorique, j'allais dire, qui peut susciter certaines réserves de la part de certains de nos partenaires. Je crois que c'est le cas, par exemple... Effectivement, en matière commerciale, vous avez raison, à la fois sur la question du contrôle en fait des investissements étrangers en Europe, sur la question aussi d'un European Buy Act qui nourrit des questionnements dans les pays du Nord, du Nord-Ouest de l'Europe, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, mais aussi l'Allemagne, parce que ces pays ont sans doute une vision plus ouverte encore que celle d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je pense que le nouveau président français est souvent perçu dans les pays du Nord comme, un libéral, donc favorable au principe de l'ouverture économique, et en même temps comme un libéral à la française, c'est-à-dire comme quelqu'un d'étatiste, avec une vision de l'économie peut-être un peu moins ouverte que celle portée dans les pays en question.
Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation Robert Schuman, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'Union européenne qui s'éloigne chaque jour un peu plus pour la Turquie. Il y a plusieurs États membres par principe réticents à l'idée d'accueillir un pays musulman. Il y a aussi les conséquences du coup d'État avorté du 15 juillet dernier pour la démocratie turque. Depuis un an, le président Erdogan exerce une répression impitoyable contre ses opposants, avec un cas emblématique, celui de la romancière Aslih Erdogan. Poursuivie pour propagande terroriste, elle encourt la prison à vie. Son procès a repris aujourd'hui en Turquie. La justice semble faire preuve d'une certaine clémence, tout au moins en façade. Éric Biégalin.
Le tribunal d'Istanbul, devant lequel comparaissait la romancière, a effectivement levé l'interdiction qui lui était faite de quitter le territoire. C'était une demande de ses avocats. Aslih Erdogan aurait dû pouvoir se rendre en Allemagne cet hiver pour y recevoir plusieurs prix littéraires. Elle n'avait pas pu y aller. Accusée de propagande séparatiste et d'atteinte à l'unité de l'État à cause de ses écrits dans le quotidien Prokurd Özgür Gündem, aujourd'hui fermé, la romancière risque donc la prison à perpétuité. Son procès a été ajourné à la fin octobre. Et d'ailleurs, même si officiellement l'interdiction de quitter le territoire a été levée, rien ne dit qu'elle pourra effectivement sortir du pays. Les passeports des uns et des autres, y compris des simples citoyens, sont régulièrement invalidés et leurs possesseurs de facto interdits de sortie du territoire. Un producteur de cinéma, par exemple, très connu en Turquie, a ainsi vu son passeport annulé du jour au lendemain. Il a mis des semaines à en comprendre la raison. Sa femme avait été un temps arrêtée car elle travaillait à la Asya Bank, la banque réputée proche de la confrérie de Fethullah Gülen qui est censée avoir fomenté le coup d'État de juillet 2016. Le cas d'Aslih Erdogan est en fait assez représentatif. Arrêtée suite à des écrits, elle a passé 4 mois et demi en prison avant d'être finalement placée sous contrôle judiciaire suite à l'intense mobilisation internationale sur son cas. Pour ce qui est des autres, des nombreux autres, et notamment des quelques 150 journalistes actuellement incarcérés en Turquie pour des motifs souvent ridicules, il n'en va pas de même. Depuis près d'un an, quelques 45 000 Turcs ont ainsi été jetés en prison, la plupart du temps, de manière parfaitement arbitraire.
Éric Biégala, merci. L'actualité sociale en France, à présent une actualité dominée par ce vaste plan de réorganisation annoncé aujourd'hui chez Michelin. Le géant des pneumatiques va notamment supprimer 1500 postes en France d'ici 2021, dont 970 à Clermont-Ferrand, son siège historique. Ces réductions d'effectifs chez Michelin se feront sans aucun départ contraint, affirme la direction. Il y aura des non-remplacements de départ à la retraite ainsi que l'ouverture d'un plan de pré-retraite. Retraite volontaire. Michelin qui justifie ce plan au nom de la compétitivité, Raphaël Ebenstein.
Michelin fait certes face à un marché mondial du pneu jugé plutôt morose par les analystes, mais le groupe affiche quand même d'excellents résultats financiers avec un bénéfice qui a dépassé 1,5 milliard d'euros l'an dernier et une rentabilité qui ne cesse de progresser. La marge opérationnelle frôle les 13%, bien meilleure que celle des constructeurs ou des équipementiers automobiles. De quoi donc sans doute faire tousser les syndicats lors du comité d'entreprise extraordinaire prévu dans 2 semaines, d'autant que les réductions d'effectifs vont essentiellement concerner le berceau de Michelin à Clermont-Ferrand. Seule petite consolation, si l'on peut dire, la promesse d'implanter à Clermont et ailleurs en France des activités nouvelles en lien avec les matériaux de haute technologie ou avec le digital, ce qui représenterait 250 créations d'emplois à très haute qualification. Michelin se défend par ailleurs entre les lignes de toute volonté de délocalisation de la production et réaffirme qu'il n'y aura aucun départ contraint.
Raphaël Ebenstein, merci. Cette information qui nous est parvenue tout à l'heure à Marseille, la présidente Les Républicains du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, et le président de la Société des Eaux de Marseille, Loïc Fauchon, ont été placés en garde à vue ce soir. Il s'agit de l'enquête sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution de marchés de l'eau à Marseille. Par ailleurs, le maire de la ville et le président de la métropole Marseille-Provence, Jean-Claude Gaudin, a également été entendu dans l'après-midi, mais lui n'a pas été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Le temps demain, la canicule faiblit avec un rafraîchissement par l'ouest et des orages sur les reliefs. 47 départements restent malgré tout en vigilance orange. La chaleur se maintiendra sur l'est et s'intensifiera même sur les régions méditerranéennes. Partout ailleurs, les minimales vont repasser sous la barre des 20 degrés. Les maximales commencent à baisser, 20 à 26 degrés sur les régions littorales à l'ouest, 25 à 31 degrés en général, 32 à 38 degrés de l'Alsace au sud-est en passant par Rhône-Alpes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.